Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par le pasteur Jean-Pierre Julien, président du conseil régional de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
La grâce et la paix, chers auditeurs, auditrices, vous sont données par Jésus-Christ, aujourd'hui et chaque jour, en cette année 2024. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, nous avons besoin de ta présence pour vivre chaque jour, pour entendre ta parole, et apprendre à aimer comme tu nous aimes. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, nous inonde, afin de bien entendre cette parole qui est arrivée jusqu'à nous. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, et avec l'aide de ton Esprit. Amen. Lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 35. À 51. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître ». « Où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez, et vous verrez. » Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, Nathanaël. » Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Sœurs et frères en Christ, venez et vous verrez. Venez et voyez, dit le Fils de l'homme à ceux qui l'interpellent sur son chemin. Aujourd'hui, dans notre société de l'image, notre formule serait plutôt « voyez et venez ». Voyez et achetez, voyez et consommez, voyez et applaudissez, voyez et éclatez-vous dans les réseaux sociaux. Avec Jésus-Christ, avec les évangiles, il y a donc une autre logique. Venez et voyez. Venez et vous verrez. Comment entendre cette première injonction? Nous pourrions, dans un premier temps, entendre cela comme un appel à l'engagement. Engagez-vous dans une démarche et vous verrez. Mais engagez-vous d'abord. Là, si nous sommes normalement constitués, nous résistons. Notre méfiance naturelle prend le dessus. Et pourquoi m'engagerais-je avant de voir ce qu'il en est vraiment? Et qui es-tu, donc, toi, Jésus, qui me demande de m'engager à te suivre alors que je ne te connais pas encore? Qui me prouve que mon engagement à te suivre ne sera pas un fiasco? C'est le fameux saut dans l'inconnu. Et nombre d'individus se la posent cette question et se disent en eux-mêmes « Je voudrais bien, mais je n'ai pas toutes les assurances. » Dans ce récit de l'Évangile selon Jean, celui qui nous demande de le suivre ne se contente pas d'un oui évasif et ne nous encourage pas à la tiédeur. Il attend de chacun de nous que notre être tout entier s'engage à le suivre. C'est une prise de risque total. Venez et vous verrez, dit Jésus. Les deux disciples de Jean le Baptiste, avant d'être encouragés à suivre Jésus, avaient été intrigués par une parole de ce prophète qui disait, en montrant Jésus, « Voilà l'agneau de Dieu ». Cette parole les a intrigués et les a poussés à poser une question toute simple à Jésus. Mais reconnaissons-le, une question un peu surprenante. « Où demeures-tu ? » Lorsque nous rencontrons quelqu'un, pour la première fois, nous lui posons plutôt comme question « Tu travailles dans quelle branche ? Tu as fait quoi comme formation ?» Pour ces deux disciples, la bonne question aurait été « Où enseignes-tu ? » Car nous voulons t'écouter, Rabbi, et non pas « Où demeures-tu ? » L'évangéliste Jean, par cette manière de parler, oriente notre esprit vers une toute autre direction. Il nous faut donc préciser cette question surprenante des deux disciples avant d'aller plus en avant. Pour cela, nous nous dirigerons vers le chapitre 15 de ce même évangile selon Jean et nous écoutons Jésus raconter une parabole à ses disciples. Il leur dit « Le sarment, s'il ne demeure pas attaché à la vigne, littéralement, s'il ne demeure attaché dans la vigne, ne peut porter du fruit. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Cette parabole du cep de vigne, du sarment et des fruits de cette vigne traduit d'une manière imagée la réalité spirituelle de ce verbe « demeurer » qu'utilise l'évangéliste Jean. Donc la vigne, c'est Jésus, les sarments, c'est nous, le fruit de la vigne, c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire la paix, la joie, la foi, l'amour. La sève qui coule dans cette vigne, c'est la vie selon Dieu. Cette vie selon Dieu coule aussi dans les sarments et permet au fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour selon Dieu, de croître et d'être visible pour nos contemporains à travers nos vies. Donc demeurer en lui, en Jésus, c'est prendre conscience que nous participons, dans notre rôle de sarment, à ce que cette vie selon Dieu rayonne au-delà de nous. La seule exigence que nous demande Jésus dans cet évangile est donc de demeurer en lui. Demeurer en lui comme lui demeure en Dieu et Dieu en lui. J'ai bien conscience que ce genre de formulation peut en rebuter certains d'entre nous. Il nous faut peut-être formuler cela d'une autre manière. Cette autre formulation pourrait commencer par une question toute simple. Où demeurons-nous les uns et les autres? Dit autrement, où plaçons-nous notre vie, notre existence? C'est quoi notre essentiel? Et si nous l'avons défini, où demeure-t-il? Pour ma part, mon essentiel, c'est ma vie. Et il n'y a rien, à mes yeux, de plus précieux que la vie. La mienne comme celle de tout être vivant. À la question « Où demeurons-nous les uns et les autres ? Où plaçons-nous notre vie, notre existence, les uns et les autres ?» il m'est impossible de répondre à cette question d'une manière générale. Je ne puis y répondre qu'en faisant une relecture rapide de mon propre parcours spirituel. Quand j'avais 16 ans, j'avais mis toutes mes espérances, ma vie, dans un engagement politique. Une grosse déception s'en est suivie. Mon idéal a été confronté à la dure réalité de l'univers politique. Puis à l'âge de 19 ans, j'ai placé ma vie dans le football que je pratiquais depuis l'âge de 10 ans, pensant trouver là aussi ma voie. Mais mes limites physiques ont eu raison de mes ambitions. Puis à l'âge de 21 ans, je me suis plongé corps et âme dans la passion du théâtre, persuadé que j'étais, que je trouverais enfin une plénitude dans cet art. Cela a duré une bonne dizaine d'années. Mais là aussi, les réponses espérées n'étaient pas au rendez-vous. Entendons-nous bien. Ces trois descriptions ne disent surtout pas qu'il ne faut pas se lancer dans la politique, ni de pratiquer du sport, ni de s'immerger dans une démarche artistique. Elles expriment seulement qu'en ce qui me concerne, j'avais investi plus qu'il ne fallait dans ces trois engagements. Après toutes ces déconvenues, la surprise est venu de Dieu lui-même, qui, en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, a manifesté sa vie dans ma propre existence. Sa vie a rempli la mienne et je demeure en lui, pour reprendre la terminologie de l'évangéliste Jean. J'ai bien conscience, là encore, que cette seconde formulation n'est pas suffisante. Certes, elle nous décrit la quête d'un absolu, d'un individu qui, à chaque fois, s'est terminé dans une impasse. Mais cette seconde formulation ne nous dit rien sur la manière dont notre Dieu s'y prend pour se manifester à nous. Le paradoxe ici, c'est que Dieu nous rencontre non pas là où nous croyons le trouver, mais là où il a décidé de nous rencontrer. C'est ce que va tenter d'expliciter la troisième formulation à venir, qui nous permettra, je l'espère, de mieux saisir ce que cherche à nous dire l'évangéliste Jean dans cette expression de Jésus de demeurer en lui. Troisième formulation. Lorsque la vie de Dieu, la vie du Christ nous rencontre, notre vie découvre et trouve sa juste place devant Dieu et devant les êtres humains. Vous remarquerez que j'insiste ici sur le fait que c'est la vie du Christ qui vient à notre rencontre. Notre vie trouve donc son véritable sens parce qu'elle est rencontrée, inondée, par cette vie de Dieu qui, par Jésus le Christ, vient à notre rencontre. Il y a deux mouvements, deux actions que nous devons préciser. Il y a notre élan vers Dieu, qui est réel et important, et l'agir de Dieu vers nous. Pour ma part, je croyais qu'en plaçant ma vie dans la politique, le sport et l'art, j'allais m'accomplir, me réaliser pleinement. Il n'en fut rien. Par la suite, je croyais encore qu'en m'élançant vers Dieu, je pourrais placer ma vie en lui et accomplir mon existence. Nouvelle déconvenue. Ce n'est pas mon élan qui trouve Dieu, c'est Dieu qui me trouve. C'est lui qui donne sa vie pour nous sur la croix. C'est lui qui réalise cela. Il est celui qui vient. Notre vie ou notre esprit cherche souvent à s'élever du mieux qu'il peut en visant un objectif. Et voilà que notre Dieu vient à notre rencontre des profondeurs de son être. Il jaillit, inonde notre vie et nous apprend à vivre de sa vie. Et à partir de cette rencontre, de ce mouvement de Dieu vers nous, nous sommes en capacité de nous élancer vers lui, de le chercher et de le trouver. Et ce faisant, nous apprenons jour après jour la profondeur de sa grâce surabondante pour chacun de nous, mais aussi sa manière d'aimer pour, à notre tour, apprendre à aimer comme le Christ Jésus nous aime. En venant vers nous, il donne donc sa vie pour que nous vivions à travers elle. Voilà donc une troisième façon d'exprimer cette expression de demeurer en lui, demeurer en Christ. Elle nous a permis, en tout cas, d'insister sur cette initiative de Dieu qui, lorsqu'il vient à notre rencontre, il nous encourage à demeurer en lui, à nous engager à le suivre, à l'écouter, à lui obéir, à vivre de lui, par lui, avec lui, en lui. Lui qui est la vie, le mouvement et l'être, comme nous le rappelle le livre des Actes des Apôtres. Récapitulons tout ce que nous venons de dire. Nous avons insisté au début de cette prédication sur l'importance d'un engagement aveugle envers le Christ. Puis nous avons insisté sur notre rôle de sarment, qui est traversé par cette vie selon Dieu, afin qu'elle s'épanouisse au-delà de nous. Enfin, nous nous sommes attardés sur le fait que celui qui fait le premier pas en notre direction, c'est notre Dieu. Et s'il fait le premier pas, c'est pour que nous demeurions en lui. Il est temps maintenant pour moi de conclure. Chères auditrices et auditeurs, dans ce récit de l'Évangile selon Jean, Jésus se définit comme étant le Fils de l'homme. En se définissant ainsi, il offre une réponse à ceux qui le suivent et qui sont de culture juive. Ils savent, en effet, que le Fils de l'homme dans la Bible symbolise l'être humain, et plus précisément l'Adam. Cet Adam de qui sont issus tous les êtres humains selon l'enseignement qu'ils ont reçu à la synagogue. Ce Fils de l'homme, pour le judaïsme, encore aujourd'hui, n'est pas encore revenu. Lorsqu'il viendra, il accomplira l'histoire. Mais l'évangéliste Jean propose une lecture théologique plus large sur ce Fils de l'homme qui vient, qui est venu et qui est là en Jésus-Christ par l'Esprit-Saint. L'évangéliste Jean annonce clairement que le jugement a été réalisé lors de l'élévation du crucifié, mort et ressuscité des morts. Et en annonçant cela, il met en lumière l'objectif premier de ce jugement déjà réalisé à la croix et qui sera pleinement visible pour tous lorsque ce Fils de l'homme apparaîtra dans la gloire à la fin des temps, nous dit le livre de l'Apocalypse. Quel est donc cet objectif premier? C'est tout simplement d'offrir gratuitement à toute l'humanité une véritable et éternelle relation, communion avec Dieu, notre Père. Le but de la venue du Fils de l'homme en Jésus-Christ est donc de greffer l'être humain à Dieu. Et cette greffe a pour conséquence première de donner à l'être humain un sens aigu de la justice selon Dieu, afin de la vivre pleinement, paisiblement, dans les lieux où nous vivons. Un tel acte héroïque, ne pouvait se réaliser que par Dieu lui-même, qui, en Jésus-Christ sur la croix, assume la désobéissance originelle de l'humanité. Et par la même occasion, par sa mort, il nous délivre du péché, de cette coupure relationnelle avec Dieu, et qui, par sa résurrection, greffe notre humanité à Dieu, à lui-même, afin que nous goûtions de cette communion avec Dieu, notre Père. Communion qui ne pourra plus jamais être coupée, séparée de chacun de nous. Rien ne pourra désormais nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, rappelle l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 39. Cela annonce clairement que cette vie de Dieu qui coule dans nos veines est là pour que nous reflétions cet amour selon Dieu dans le quotidien de nos vies. C'est donc lui, notre Dieu, qui fait le premier pas. Il vient. C'est lui qui réalise tout cela sur la croix. C'est lui qui nous donne sa vie par l'Esprit-Saint. C'est lui qui nous encourage à demeurer en lui pour vivre et rayonner de sa présence. Amen. Auditrices et auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette prédication et de ce culte. Que l'Esprit Saint vous accompagne les uns et les autres, afin que nous continuions à être ces témoins rayonnants de cet amour qui vient de Dieu seul et qui a fait le choix de rayonner à travers nos vies. Oui, que son Esprit, que sa grâce, que sa bienveillance se lisent dans nos regards jour après jour. Amen. We'll be right back.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de ce site internet nimes-eglise-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Jean-Pierre Julien, président du conseil régional de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.